Vous écoutez
RMC.
8h sur RMC, le retour de la pluie, Géraldine.
Par le nord-ouest, par la Bretagne ce matin, puis il va toucher les pays de la Loire jusqu'aux côtes de la Manche cet après-midi. On va aussi avoir de gros orages entre les Pyrénées, le Massif central et le Grand Est, avec des risques de grêle, surtout autour du Massif central. Ailleurs, ce sera souvent nuageux, mais on aura quand même du soleil des Alpes à la Méditerranée, avec des températures très contrastées entre l'est et l'ouest. L'ouest, où on a des températures de saison cet après-midi, mais il va faire chaud dans l'est, jusqu'à 31 degrés à Grenoble, 30 à Lyon, 28 à Marseille, il fera 22 à Paris, Bordeaux, 20 à Lille ou La Rochelle. Et à noter qu'il va faire très chaud à nouveau ce week-end pour tout le monde.
La météo sur RMC avec la nouvelle caméra extérieure Omiris. Omiris, alarme et télésurveillance, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
8h01 sur RMC, tout de suite le journal de Quentin Vinet.
RMC, Apolline Matin.
Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. L'État va-t-il tirer les leçons de l'affaire Liana ? Réunion ce matin, 8h30 au ministère de la Justice, les procureurs généraux convoqués par le garde des Sceaux et une centaine de rassemblements prévus ce soir, on fera le point devant les tribunaux. L'Europe appelle à la désescalade ce matin au Moyen-Orient où les échanges de tirs ont repris cette nuit entre Israël et l'Iran, des scènes qu'on n'avait pas vues depuis 2 mois. Et on sera à Lille à la fin de ce journal où les Bleus vont jouer ce soir à un match de préparation au Mondial. Ce sera contre l'Irlande du Nord avant de décoller pour les États-Unis.
Les 36 procureurs généraux du pays sont convoqués ce matin au ministère de la Justice.
Oui, convoqués par Gérald Darmanin qui veut tirer les leçons à des dysfonctionnements de l'affaire Liana avec un suspect, vous le savez, visé par 9 procédures judiciaires. Il demande donc aux magistrats de reprendre les 70 000 plaintes concernant des enfants d'ici au 14 juillet, sans quoi personne ne partira en vacances cet été. Romain Cluzel, du service politique à RMC, vous êtes en direct avec nous ce matin. C'est un chantier titanesque là qu'il demande.
Exactement, le ministre de la Justice veut taper du poing sur la table. Il estime que sa consigne n'a pas été respectée. Prioriser le traitement des plaintes concernant les violences sexuelles sur mineurs. On l'a entendu il y a quelques minutes sur notre antenne, le président de la Conférence nationale des procureurs de la République, Frédéric Chevalier, dénonce une dérive. On jette en pâture les magistrats du parquet, selon lui. Plusieurs procureurs s'inquiètent. Réexaminer ces 70 000 plaintes d'ici un mois, ce sera forcément au détriment des autres dossiers à traiter. Mais le ministère de la Justice maintient la pression. Un proche de Gérald Darmanin réplique : si les magistrats font bien leur travail, cette vérification prendra très peu de temps.
Et c'est pour dénoncer une injustice de trop au lendemain de la marche blanche qui a réuni 6000 personnes à Florence, qu'associations et collectifs appellent à des rassemblements ce soir 19h devant les tribunaux partout en France. Il y en a déjà une centaine prévues dans tout le pays, comme ici dans le sud-est avec notre correspondante Anna Jojard.
Bonjour.
Son paquet de tracts à la main, Anne-Cécile Collet interpelle les passants dans les rues de Nice.
Rendez-vous au palais de justice à 19h.
Elle est présidente de l'association de protection de l'enfance Les Petits Invincibles.
On est en colère de ce qui s'est passé pour la petite Liana. C'est l'injustice de trop qui, on l'espère, fera prendre conscience que ça ne peut pas continuer.
Un appel qui trouve un écho auprès de ces Niçoises qui seront devant le tribunal ce soir.
On se sent vraiment concerné. On se dit que maintenant, il serait temps que vraiment ça bouge.
Il faut qu'il y ait une action qui soit prise et il faut qu'il y ait des décisions de justice qui changent.
Et des rassemblements pour Liana, il y en aura dans plus d'une centaine de villes en France.
Je pense que ça vient parler d'un ras-le-bol.
Stéphanie Nadji est membre du collectif Enfantiste 13 à Marseille.
Liana, c'est pas un cas isolé en fait. C'est ça qui est problématique.
Quand on entend M. Macron qui parle de dysfonctionnement, ça nous agace parce qu'on sait que ce n'est pas un dysfonctionnement. C'est tout un système, en fait, qui n'est pas à la hauteur des chiffres des violences sexuelles ou des violences intrafamiliales ou commises sur les enfants.
Elle plaide pour une réforme de la justice et pour faire de la protection de l'enfance une priorité.
Sur 1 000 euros en dépenses publiques, seulement 5 vont à la justice, d'après les chiffres donnés par Emmanuel Macron lui-même l'année dernière. Alors le président, il va passer la journée sur les terres de son enfance à Amiens, en se rendant aujourd'hui à l'usine Goodyear, où l'État a massivement investi ces dernières années. 120 postes vont d'ailleurs être créés, le site a été modernisé. 12 ans après la suppression de plus de 1 000 emplois chez ce fabricant de pneus, d'où la colère de ces anciens salariés de Goodyear qui s'étaient battus à l'époque pour sauver leurs emplois. Écoutez-les au micro d'Inès Zegloul pour RMC.
Evelyne garde quelques vêtements, alors, comme des reliques.
C'est un t-shirt Goodyear.
Celle d'un temps révolu, de ces années où elle pointait ici tous les jours avant d'être licenciée il y a 12 ans, mise sur le carreau comme tous les siens, dit-elle.
On connaît les conséquences sociales qui ont été dramatiques après cette fermeture. Il y a eu des suicides, il y a eu des divorces. Le président est très au courant de ce qui s'est passé chez Goodyear. Aujourd'hui, il vient fanfaronner. C'est une insulte faite aux salariés. C'était comme une espèce de famille.
Il ne reste que la colère et la solitude.
Aujourd'hui, on est tous éparpillés. On ne se voit plus beaucoup. Non, le temps a passé.
Et certains ont fui la zone industrielle où ils ont passé des dizaines d'années.
J'aime plus trop passer par Amiens. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Quand je vois mon usine à moi qui a été rasée, ouais, ça me fait toujours un pincement au cœur.
Alors Alex a dû se mettre au vert à des kilomètres de là. Il a redémarré une nouvelle vie.
J'avais deux crédits, voiture, machin. J'avais des enfants aussi qui avaient commencé des études et tout. Je suis traité depuis en hypertension artérielle. Aujourd'hui, on viendrait faire une propagande en disant que c'est grâce à eux si maintenant il y a du boulot, quoi. Pas du tout.
Une vaste blague, conclut-il.
À 8h06 sur RMC, l'information du matin, ce sont ces échanges de tirs qui ont donc repris cette nuit entre Israël et l'Iran. En dépit du cessez-le-feu qui est en vigueur depuis le 8 avril, Romain Houck pour RMC, ça continue encore là au moment où on se parle.
Oui, à Jérusalem notamment, où les habitants ont dû se précipiter dans les abris au retentissement des sirènes d'alerte. Au moins 8 fortes explosions ont été entendues au-dessus de la ville sainte, alors que les systèmes de défense anti-aérienne israéliens ont été activés quelques instants plus tôt. Aucune victime n'est pour l'heure à déplorer. L'Iran dit avoir visé des bases militaires israéliennes. C'est la deuxième salve de missiles tirée depuis l'Iran vers Israël en quelques heures. Des frappes inédites depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis il y a tout juste 2 mois. Trêve qui apparaît ce matin plus que jamais fragilisée. Israël ayant également mené des frappes sur des sites militaires à une usine pétrochimique dans l'ouest et le centre de l'Iran, dont Téhéran la capitale. Et ce, contre l'avis même de Donald Trump, qui voit cette escalade d'un très mauvais œil. Il a exhorté hier soir en vain le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à ne pas répliquer aux frappes iraniennes menées plus tôt en représailles aux bombardements israéliens dans le sud du Liban, bastion du Hezbollah, allié du régime iranien.
Et c'est dans ce contexte que couvre ce matin le fameux guichet d'aide au carburant pour les artisans du BTP désormais concernés. 20 centimes par litre de gazole non routier plafonné à 4000 euros pour les entreprises de moins de 50 salariés. Je vous signale que le trafic reprend là, en ce moment, sur les lignes A et C du RER en région parisienne, mais ça reste très compliqué. Ça a été compliqué toute la matinée après 2 accidents de personnes à Ivry-sur-Seine et à Nation. Des nouvelles de nos bleus du football. L'équipe de France qui se réveille ce matin à Lille, où elle va jouer ce soir à 21h10, et on vivra ça sur RMC. Son deuxième et dernier match de préparation à la Coupe du Monde, ce sera contre l'Irlande du Nord. Pour faire oublier la défaite de jeudi dernier contre la Côte d'Ivoire, Arthur Perrault, vous êtes au plus près des Bleus pour RMC. C'est vraiment une répétition générale, hein, puisque l'équipe qui jouera ce soir ressemblera beaucoup à celle qui va commencer le Mondial.
Oui, ce soir à Lille, les Bleus répètent déjà leur match contre le Sénégal, indéboulonnable. Dans les cages, Mike Maignan devrait honorer sa 40e sélection en défense. William Saliba s'est débarrassé d'une blessure au dos. Le joueur d'Arsenal en Angleterre pourrait débuter avec Jules Koundé, Dayo Upamecano et Théo Hernandez. En difficulté jeudi dernier lors de la défaite 2-1 contre la Côte d'Ivoire, le binôme Adrien Rabiot-Aurélien Tchouaméni pourrait être reconduit au milieu de terrain. Mais la meilleure nouvelle pour Didier Deschamps, le retour à 100% des joueurs parisiens, fraîchement sacré double champion d'Europe. Le sélectionneur l'a annoncé hier, le ballon d'or Ousmane Dembélé sera titulaire à Lille. Il devrait être accompagné de Michael Olise, Désiré Doué et Kylian Mbappé pour une attaque de feu à 8 jours du premier match des Bleus aux États-Unis.
Et c'est mercredi que les Bleus vont s'envoler pour leur camp de base à Boston, à la veille du match d'ouverture jeudi au Mexique, où on était en direct un petit peu plus tôt ce matin sur RMC, avec 40 personnes, vous le savez, sur place pour tout vivre de cette Coupe du Monde sur RMC radio officielle. C'est la Coupe du Monde qui tombe en pleine finale de NBA. C'est la nuit prochaine qu'il y aura la troisième manche entre San Antonio et New York. Et alors la nouveauté la nuit prochaine, c'est que ça arrive, ça se jouera à New York, qui mène déjà 2-0 dans cette finale et en présence de Donald Trump qui sera dans les gradins.
C'était le journal de Quentin Vinet. Tiens, vous parliez foot à l'instant, justement. C'est l'heure de parler économie et foot.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel Le Chypre est avec nous. Bonjour Emmanuel.
Bonjour
Coupe
à tous.
Coupe du Monde sur le terrain économique, on connaît déjà les vainqueurs. Hein.
Et oui, la glorieuse incertitude du sport ne vaut pas vraiment pour le business, puisque sur ce terrain-là, on sait déjà qui peut se frotter les mains. Alors il y a des évidences, hein, le secteur du tourisme, bien évidemment, 7 milliards de dollars de recettes contre environ 2 à 4 milliards pour la dernière Coupe du Monde au Qatar, nous dit le FMI, et l'US Travel Association s'attend à ce que chaque supporter dépense en moyenne 5 000 dollars. pendant cette Coupe du Monde. Bon, il y a la publicité aussi, hein, 11 milliards de dollars de dépenses sont attendues, autant qu'au Qatar en 2022 et un peu moins qu'en Russie quand même en 2018. Et puis il y a l'économie nord-américaine. Il faut rappeler que cette Coupe du Monde, elle est co-organisée par États-Unis, Canada, Mexique. Selon la FIFA, le mondial va générer 40 milliards de PIB supplémentaires, créer 800 000 emplois, générer 9 milliards de dollars de recettes fiscales. C'est sur le Mexique que l'effet sera le plus fort, nous dit la financière de l'échiquier, plus 0,2 points de croissance cette année.
Et puis alors, le grand gagnant, c'est une entreprise chinoise.
Oui, absolument. Le grand gagnant, c'est la Chine, dont l'équipe, rappelons-le, ne s'est pas qualifiée sur le terrain. Mais cette Coupe du Monde, il faut bien spécifier que ce sera la première de l'ère de l'intelligence artificielle généralisée dans l'analyse des performances, dans la gestion des spectateurs, dans l'arbitrage, dans les images augmentées. Ce basculement technologique, il va reposer sur un flux gigantesque de données. Et qui va gérer tout ça? Eh bien, c'est Lenovo, une entreprise chinoise en partie possédée par l'État chinois. Et ça n'est pas tout. La Chine participe également à l'infrastructure de diffusion via la société Hisense et s'invite aussi dans la consommation via le sponsoring de la société Mengniu, géant laitier chinois. Donc oui, le grand gagnant de cette Coupe du Monde, c'est bien la Chine, même si
c'est déjà la Chine,
mais pas sur le terrain.
Manu, comme chaque jour sur RMC, les chiffres du jour, ça monte ou ça descend?
Alors le gazole, on est à 2,03 € le litre, c'est quasi stable hein, depuis une semaine. En revanche, la baisse continue pour le sans-plomb 95, 1,96 € le litre, 4 centimes de baisse en une semaine. Le pétrole, bon, on est dans une étroite fourchette depuis une dizaine de jours, entre 90 et 95 dollars. Et puis le gaz est un peu remonté, on est à 50 € le mégawatt-heure, au plus haut depuis le 20 mai.
Merci Emmanuel, il est 8h11 sur RMC. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Il est 8h12 sur RMC. Restez bien avec nous. Voici le programme de la suite de la matinale. Dans un instant, Arnaud Demanche qui va venir nous faire rire à 8h30, le face-à-face. Mon invité, c'est le coordinateur national de la France Insoumise, Manuel Bompard, au lendemain de ce premier grand meeting hier à Saint-Denis pour Jean-Luc Mélenchon. On reviendra évidemment sur le programme de LFI, mais aussi sur l'affaire Liana. LFI qui estime que Gérald Darmanin doit remettre sa démission. Juste après le face-à-face, les dernières infos de la Coupe du Monde, ce sera avec vous, Mathieu.
Et qui va remporter le mondial? On est de plus en plus nombreux à pronostiquer entre amis, entre collègues, en famille. On va revenir sur ce phénomène et sur toutes les coulisses de la Coupe du Monde 2026 à 3 jours du mondial. C'est en direct à 8h50 sur RMC.
Vous ne manquez rien de la Coupe du Monde 2026 sur RMC, radio officielle.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h15 et il est là avec nous, Arnaud Demanche.
Et oui, bonjour, tous les jours le dit le jingle. Bonjour les amis.
Ça bonjour.
Ça a été le week-end?
Ouais.
Alors tiens, ce matin, j'ai une petite pensée pour nos anciens collègues, les salariés de SFR. Ils étaient dans notre tribu. SFR a été vendu, ça va fermer. Ça a dû leur faire un choc, hein. Enfin, parce qu'ils ne le savent pas encore. Donc non, parce qu'ils n'ont pas reçu le texto vu qu'ils sont chez SFR.
Bah oui.
Mais ça va leur faire un choc. Sinon, l'événement du week-end, c'est Bernadette Chirac. Elle est décédée, hein. Comme SFR, elle captait plus grand-chose vers la fin. Non, c'est moche. Je sais, c'est moche. On a tous de l'affection en plus. C'est un bout de notre enfance. C'est une icône des années 90 qui disparaît. On avait déjà perdu les Minicum, Philippe des 2B3, Chuck Norris, les Nussini, les Pog et l'Esprit Canal. Et voilà, voilà. Bernadette.
Et voilà.
Et ce week-end, on a aussi perdu Anthony Head qui jouait Giles dans Buffy contre les vampires.
Oui. Ah oui.
Alors déjà, il y a 2 mois, quand Loana était partie, c'était Xander de Buffy qui était parti en même temps. En fait, dès qu'un acteur de Buffy meurt, il prend une icône française dans la foulée.
Ah ouais.
Catherine Deneuve et Michel Drucker, ils doivent regarder le Instagram de tous les acteurs de Buffy en mode « Non, non, prends pas l'avion, mange pas ça, c'est bien nécessaire ce voyage en Amérique centrale. » Alors la classe politique a été unanime pour saluer les qualités de Bernadette Chirac. Moi, je pense que même morte, elle leur fait encore peur. Et c'est forcément un moment un peu spécial. Pour moi, j'ai un rapport très particulier aux époux Chirac. Tiens, je vais vous raconter une anecdote.
Mais non.
Si, une année. Alors, elle est vraie. Mais à un moment, elle va devenir fausse.
Ah.
Là, il y a un petit jeu. Vous devez trouver quand. À ce moment-là, vous dites « Oh non, là, c'est pas vrai ». Vous êtes prêts?
Ouais.
Alors, quand j'avais 22 ans, je me suis fait passer pour Jacques Chirac. C'est-à-dire, je me suis rendu coupable, officiellement, d'usurpation d'identité sur la personne du chef de l'État. C'est quand même pas rien. J'avais remarqué que les noms de domaine jacqueschirac.com, jacqueschirac.org et tout ça étaient à vendre. Je les ai achetés.
Ça, c'est
et j'ai monté un faux blog de Jacques Chirac. Et j'ai écrit plein de conneries en son nom. Sur Poutine, sur les JO, sur Bernadette, la presse a cru que c'était vrai. et l'Élysée a mis 10 jours à démentir. Et j'ai fini par être invité à l'Élysée pour rencontrer.
Non, là c'est faux.
Jacques
non,
et Bernadette.
Non, là, c'est faux.
Bernadette et moi, on a vécu une histoire clandestine. J'étais un peu son Emmanuel Macron. Vous avez trouvé au bon endroit. En
tout cas, vous pouvez vous
applaudir. Non, mais néanmoins, le couple Chirac, il a eu beaucoup d'humour là-dessus parce que j'ai pas eu d'ennui. J'ai su que ça les avait fait marrer.
Voilà. Ah bon.
Alors, Mme Bernadette pour son engagement sur l'opération pièce jaune qui dure depuis 30 ans. C'est très bien foutu comme système. En fait, t'as un président qui détruit l'hôpital et après, il y a sa femme qui ramène 35,70 € en pièces de 2 centimes, toute gênée, en disant « Voilà, bon, on est désolé pour les 5 millions de budget en moins. Bon, avec les voisins, on s'est cotisé. On espère que ça vous aidera. » Allez, bon courage.
C'est bien fichu. Un an et demi après la mort de Jean-Marie Le Pen, sa villa à Montretout est sur le point d'être vendue.
Oui, gros défi pour le futur propriétaire. Va falloir convaincre son entourage qu'il l'a acheté parce que elle était jolie, la maison. Rien à voir avec de la nostalgie. Moi, j'aurais bien aimé assister à une visite avec l'agent immobilier. Entrez. Alors, comme vous le voyez, c'est une maison chargée d'histoire.
Quelle histoire ?
Non, peu importe. Tiens, regardez, au mur, il y a même des jolies photos en noir et blanc. Ça, c'est un gentil grand-père.
C'est pas Pétain ? Non, il marche mal, l'interrupteur de la cave.
Non, c'est pas un interrupteur, c'est une gégène. Elle est là depuis le début. Alors, Montretout, c'est un peu le manoir de la famille Adams, de l'extrême droite française.
Oh, oncle Fétide !
Je ne suis pas oncle Fétide, je suis Eric Ciotti.
Oh, et la main baladeuse, là, c'est la chose ?
Non, c'est moi, c'est Jean-Marc Morandini. Il se cachait à la cave, tu me rejoins ?
Si ça se trouve, c'est Jordan Bardella qui va racheter pour s'y installer avec sa princesse de Bourbon, des 2 Siciles, des 3 pièces cuisine et des 4 salles de bain. Remarquez, si la maison est hantée, vaut mieux que ce soit Bardella qui l'occupe plutôt que, je sais pas, un couple d'homosexuels mixtes, par exemple. Vous savez, il y en a un qui est marocain, qui vote LFI, l'autre, c'est Zaza Napoli. En 4 fantômes de Jean-Marie Le Pen, cela, il passerait pas un bon séjour. Marqué, on dirait presque un film des années 70. Oui. La cage aux folles contre le fantôme de Jean-Marie Le Pen, ça aurait de la gueule.
Renato, t'es sûr qu'on a bien fait d'acheter le manoir de Montretout ? Oh ! Les draps bougent tout seuls !
Ouh, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous faites dans mon lit ? Fuyez, drag queen, barbu et cosmopolite, n'est-ce pas ?
Renato, hein, tu vois quelque chose ? Je suis sûr que j'ai entendu un fantôme.
Et bienvenue ! Bienvenue à l'heure des pros.
Renato ! La télé change de chaîne toute seule pour mettre ses news.
Bon courage aux futurs acheteurs et à demain.
Merci Arnaud.
C'était n'importe quoi.
Arnaud, c'était vraiment n'importe nawak. Allez, il est 8h20 et il y a Magali qui est en direct avec nous du Haut-Rhin. Bonjour Magali.
Bonjour Apolline.
Comment ça va Magali ? Vous vouliez réagir à la question de la responsabilité. Qui est responsable dans l'affaire Liana ? Qui est responsable ? Surtout, qui prendra ses responsabilités ? Il y a une partie, notamment de la gauche, LFI, qui demande la démission de Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, lui, demande des sanctions d'éventuels procureurs. Comment vous réagissez à ça, vous ?
Moi, je pense que de toute façon, c'est pas en demandant la démission de Monsieur Darmanin qu'on fera avancer les choses. Les problèmes qu'il y a sur la petite enfance et la maltraitance des petites enfants, ça date depuis des années, des dizaines d'années même. C'est pas la faute de ce gouvernement, c'est pas la faute du gouvernement d'avant, c'est la faute de milliers et de milliers des dizaines d'années qui sont où le système même n'est plus d'actualité. Et je pense que c'est pas en faisant démissionner M. Darmanin qu'on fera avancer les choses. Au contraire, ça risque juste de les figer. Hein. Ouais.
Et donc, d'empirer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors, Magali ? Quand je suis bien d'accord avec vous, et quand on regarde, en réalité, il y a une espèce de je sais pas comment vous dire, de collapse, d'effondrement global, où on a l'impression que rien ne va en fait dans cette histoire. Comment on fait ?
Je suis d'accord avec vous, il n'y a rien qui va, mais ça date pas d'hier. Moi, j'ai ma sœur, elle est assistante sociale. Il y a 25 ans, elle s'est retrouvée devant le tribunal parce que le dossier qu'elle avait instruit est resté bloqué pendant les vacances au tribunal, quoi. Parce que le suivi a pas suivi, le petit garçon est décédé. Donc ça date d'il y a 25 ans, Apolline. Donc le problème, il date pas de Liana, et je suis bien triste, comme toutes les mamans, pour Liana. Mais ce problème, il date d'il y a plus longtemps. Donc je trouve que de faire un audit et de se poser les questions où il y a des blocages, où il y a des choses qui sont à modifier, où il y a des choses à changer, je trouve que c'est peut-être la chose par laquelle il faut commencer. Ça ne va pas résoudre le problème demain, c'est sûr. Mais il faut déjà peut-être se poser les questions de comment...
Il y aura d'ailleurs une enquête, c'est la première chose qu'avait demandé à la fois le ministre d'ailleurs de l'Intérieur et le ministre de la Justice. Merci beaucoup Magali. d'avoir réagi ce matin. On entend aussi votre émotion quand vous évoquez cette affaire qu'a traversée votre sœur. Il est 8h22 sur RMC et RMC Story. Dans un instant, je file sur BFM TV et sur RMC toujours, bien sûr. Manuel Bompard est mon invité. Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise. Et il demande, et je poserai votre question, Magali, la démission de Gérald Darmanin. Est-ce que vraiment ça changerait quelque chose? Qui doit prendre ses responsabilités? Je pose la question dans un instant. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Manuel Bompard.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes le coordinateur national de la France Insoumise. Vous êtes également député des Bouches-du-Rhône. Vous étiez sur scène hier lors de ce grand meeting en plein air de Jean-Luc Mélenchon. On y reviendra dans un instant. C'était vraiment le lancement officiel de la campagne de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon. Mais d'abord, le drame de Liana. Vous l'avez entendu, Gérald Darmanin présente ses excuses à la famille de Liana. Il parle de dysfonctionnement. Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, reconnaît un échec, des dysfonctionnements, un manque de bon sens. Est-ce que tout cela suffit?
Non, ça suffit pas. Le ministre de la Justice présente ses excuses, c'est la moindre des choses. Mais je vois bien qu'il y a une tentative, si vous voulez, d'aller pointer du doigt ou faire porter la responsabilité à des individus ou à des dysfonctionnements qui seraient des dysfonctionnements individuels, alors que clairement, ce que révèle malheureusement cette tragédie, c'est un problème qui est un problème systémique de prise en charge dans notre société de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles de manière générale, et particulièrement de la lutte contre les violences sexuelles à l'égard des enfants, et que les réponses, elles ne peuvent pas seulement être des réponses de sanctions individuelles, elles doivent être des réponses qui sont des réponses systémiques. Vous savez, il y a une commission indépendante qui s'appelle la CIVIS, qui a travaillé sur les problèmes d'inceste et de violences sexuelles contre les enfants. Elle a formulé un certain nombre de recommandations, plus de 80, en 2023. Et à l'heure où je vous parle aujourd'hui, vous avez seulement 25% de ces recommandations qui ont été mises en œuvre et qui sont effectivement. Vous avez des associations qui demandent 2,6 milliards d'euros dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et aujourd'hui, malheureusement, on n'en voit pas la couleur. Donc c'est ça qu'il faut faire.
Il dit, Gérald Darmanin, mais pourtant j'avais donné des instructions, j'avais fait une ordonnance, j'avais demandé à ce que les affaires qui concernent les enfants, les mineurs, soient sur le haut de la pile. Ma circulaire n'a pas été respectée.
Pardonnez-moi, mais ce n'est pas vrai. Il y a eu 3 circulaires dont M. Darmanin parle quand il est allé à la télévision avant le week-end. La première de ces circulaires, elle mettait en haut de la pile des priorités la lutte contre le narcotrafic, et elle mettait en deuxième point la question des violences contre les personnes, et à l'intérieur de ce deuxième point, elle parlait des violences contre les enfants. Ensuite, il y a eu une deuxième circulaire qui parlait de la prise en charge et de l'accompagnement des victimes d'attaques contre les personnes. Troisième circulaire, elle parlait des violences sexuelles contre les enfants dans le cadre scolaire et dans le cadre périscolaire. Là, en l'occurrence, malheureusement, dans la tragédie de Liana, on ne parle pas du cadre scolaire ou périscolaire. Donc ce que dit M. Darmanin, c'est une manière en quelque sorte de s'exonérer de sa propre responsabilité, qui est une responsabilité politique et ne correspond pas aux faits. Il n'y a pas eu d'instruction de M. Darmanin demandant à ce que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et la lutte contre les violences sexuelles contre les enfants soit une priorité ultime.
Il doit démissionner.
Je trouve que, si vous voulez, il y a en Macronie ce sentiment que le pouvoir politique n'assume jamais ses propres responsabilités. Et quand on est ministre de la Justice aujourd'hui, quand on a été ministre de l'Intérieur avant, puisque la question qui est posée là, c'est l'articulation entre le travail de la police et le travail de la justice, donc la responsabilité du ministre de l'Intérieur et la responsabilité du ministre de la Justice, il me semble un peu normal dans une démocratie, au bout d'un moment, que les responsables politiques assument leurs responsabilités et qu'ils cherchent pas en permanence à se défausser.
Donc pour vous, Gérald Darmanin et Laurent Nunez devraient remettre leur démission.
Je trouve que la question se pose en tout cas.
Mais vous la demandez cette démission?
Mais ça sert à rien que je la
Mathilde
demande.
Mathilde Panot le fait. Hein.
Oui, voilà. Mais c'est surtout que je sais bien qu'il suffit pas que je la demande pour qu'elle devienne effective. Je dis juste que la responsabilité politique à un moment elle est posée, parce que sinon le sentiment qu'on envoie aux Françaises et aux Français, c'est qu'à la fin on cherche juste à se protéger. Or la question qui est posée, elle dépasse des personnes, elle passe des individus. C'est une question qui doit être une question de société. société. Comment on fait en sorte que nos enfants soient protégés? Comment on fait en sorte qu'on comprenne que les enfants sont un sujet de droit, qu'on peut pas le laisser comme ça? Enfin, pardon, mais chaque, il y a 160 000 violences sexuelles contre les enfants. Quand il y a des plaintes pour viol d'enfants, il y en a 72% qui sont classées sans suite. On est en train
et
de
il y en avait
d'un...
eu plusieurs avant le drame de Liana qui concernait Jérôme Barella, le suspect. Il y en avait 4 au moment de sa disparition. Il y en a 9 aujourd'hui. Laurent Nunez dit d'ailleurs, c'est un drame qui aurait pu être évité.
Malheureusement, je crois que sur ce point, il a raison. Quand on sait que il y a une plainte qui date d'il y a plus d'un an, que cette personne n'avait même pas été auditionnée, quand on sait que un des signalements qui a été fait à la gendarmerie n'a même pas été suivi d'effet, quand on sait que cette personne a subi une sanction administrative puisqu'elle travaillait dans un établissement scolaire et qu'elle a été licenciée et qu'il y a pas eu de signalement à la justice. C'est terrible de se dire que, évidemment, c'est un drame, une tragédie, et ce sentiment atroce qu'il aurait pu
être. On va voir ce que vous proposez, vous, sur la justice, mais Manuel Bompard, vous avez dit, les sanctions, ça ne suffirait pas. Mais en faut-il tout de même?
Des sanctions individuelles.
Des sanctions individuelles. Bah, on parle de la question de la procureure d'Auch, on parle de la question de la responsabilité des uns et des autres qui n'ont pas forcément mis en lumière ce qui se passait, qui n'ont pas forcément tiré les conséquences, par exemple, de l'analyse médicale qui avait été faite sur l'une des petites filles qui a porté plainte. Est-ce qu'il faut des sanctions individuelles?
Il y a une enquête administrative qui a été lancée, et cette enquête, elle va aller jusqu'à son terme. Si elle révèle qu'il y a eu des failles individuelles, elles peuvent faire et elles peuvent donner lieu à des sanctions. Mais honnêtement, c'est une manière de prendre le problème qui ne le traite pas dans sa globalité. Sa globalité
aujourd'hui.
On va
parler de la globalité, mais Manuel Bompard, êtes-vous opposé?
Non, je suis pas opposé. Je vous ai répondu. Si il y a une enquête en cours, c'est pas la peine.
Est-ce que les juges doivent davantage rendre compte de leurs actions?
Tout le monde doit rendre compte, et les juges en particulier, dans la justice aussi. La responsabilité individuelle, elle existe toujours.
Vous avez entendu peut-être Bruno Retailleau qui demande une cour disciplinaire de la magistrature.
Oui, en fait, si vous voulez, tous ces coups de communication que je trouve, d'un certain point de vue, assez indécents d'ailleurs. Comme quand Monsieur Darmanin nous dit aujourd'hui qu'il va réexaminer toutes les enquêtes en cours. La belle affaire, une fois qu'on les a examinées, s'il y a personne pour les prendre en charge et pour les traiter, qu'est-ce que ça va changer? Et puis il faut un drame et une tragédie.
Cette expression, il dit, nous ne partirons pas en vacances, ni moi, ni les procureurs, tant que les 70 000 plaintes qui concernent des enfants ne seront pas examinées.
C'est de la démagogie, parce que vous pouvez les examiner, mais il faut qu'elles soient prises en charge, il faut qu'il y ait une police judiciaire pour mener les enquêtes, il faut auditionner des personnes, et puis quoi? C'est-à-dire qu'il faut une tragédie dans notre pays pour que les enquêtes suivent leur cours? C'est ça que nous dit Monsieur Darmanin. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de drame ou pas de tragédie, c'est normal que les enquêtes soient là et qu'elles ne suivent pas les... Enfin, c'est absolument absurde. Donc, on a un problème qui est un problème de clochardisation absolue de la justice. Et quand j'entends le président de la République dire « je ne veux pas entendre parler de moyens », bah si, précisément. Évidemment que la solution, ce ne sont pas que des moyens. Mais la question des moyens, elle est centrale.
Sur la clochardisation, on va en venir aux moyens que vous mettriez ou pas. Sur la clochardisation, c'est une expression qui avait été utilisée par Jean-Jacques Urvoas à l'époque où il était garde des Sceaux. Ce matin, je recevais le représentant de tous les procureurs de France. Il est lui-même procureur de Chartres. Il disait, pas question d'être les boucs émissaires dans cette histoire. Mais deux, il disait, pour autant, non, il n'y a plus de clochardisation de la justice en France. Là, le problème, je veux bien qu'on parle de moyens, et il y a un vrai problème de moyens, mais là, le problème, c'est que il y a eu des procédures. Il y a eu, ne serait-ce que sur la plainte que l'on évoquait à l'instant, le 22 août dernier, une petite fille porte plainte avec sa maman. Le 11 septembre, il y a un examen médical qui conclut que les lésions qu'elle présente sur son corps corroborent son récit de viol. C'est pas une question de moyens. Il est là, le rapport. Mais rien n'est fait derrière.
Bah, pourquoi rien n'est fait? Bah, c'est la question que, okay. Là, vous dites, c'est pas une question.
Donc, pour vous, rien n'est fait parce que tout le monde est débordé, quoi.
Bah, pas seulement. Peut-être, encore une fois. Moi, j'essaye d'avoir une vision qui est une vision complexe de cette situation dramatique. Mais quand je sais qu'il y a à peu près 3 procureurs pour 100 000 habitants en France, alors qu'il y en a 11 dans la moyenne de l'Union européenne, quand je sais qu'il y a 11 juges pour 100 000 habitants en France, alors qu'il y en a 22 dans la moyenne de l'Union européenne, quand je sais qu'il y a moins d'un greffier pour 100 000 habitants en France, alors qu'il y en a quasiment 15 dans la moyenne de l'Union européenne.
C'est juste,
vous pouvez me dire, il n'y a pas de problème de clochardisation de la justice, mais.
C'est pas moi qui le dis, c'est le procureur national qui disait ce matin.
Vous comprenez, je veux dire, qu'on me dise, le sujet, ce ne sont pas que les moyens, et y compris le sujet, ce ne sont pas que les moyens, parce que ne focaliser la discussion uniquement sur les moyens, c'est aussi, ne pas comprendre qu'il y a un problème de culture du viol, de culture patriarcale.
On le voit bien.
Et qu'il y a un continuum aujourd'hui entre les violences sexistes et sexuelles et dans les violences sexuelles contre les enfants. Ne pas comprendre qu'il y a des problèmes de formation, qu'il y a des problèmes de la parole de l'enfant qui n'est pas pris au sérieux, comme la parole d'une femme qui vient se plaindre n'est pas pris au sérieux.
Ces questions-là, elles sont centrales. On a eu la parole et on a ensuite les preuves médicales matérielles. Une question quand même, le tribunal d'Auch, on peut pas dire que ce soit un des tribunaux les plus débordés, en tout cas c'est ce qu'il semble. C'est pas le tribunal de Paris ou le tribunal pour enfants de Bobigny.
Je sais pas, je vous invite à regarder. J'ai lu plusieurs articles dans la presse sur le fait qu'à un moment il y avait plus de juges dans ce tribunal. Bon, je suis pas sûr que nos tribunaux, nos petits tribunaux, parce que c'est ça la comparaison que vous faites, en particulier dans les zones qui sont pas les grands centres urbains, soient en très meilleure santé,
vous,
si vous voulez,
au
que
pouvoir,
les tribunaux.
Vous faites quoi? D'abord, pour restaurer la justice, pour lui donner les moyens.
Comme je vous le disais, d'abord on met en œuvre immédiatement l'ensemble des recommandations qui sont formulées par cette CIVIS, cette commission indépendante qui a travaillé, et ces recommandations, elles doivent être suivies d'effet. Deuxièmement, on accorde les 2,6 milliards d'euros qui sont demandés par les associations qui travaillent sur ce sujet pour pouvoir avoir le plan digne de la France dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Enfin, pardonnez-moi, on est capable de distribuer des dizaines de milliards d'euros aux grandes entreprises sans contrepartie. On est capable de donner des dizaines de milliards d'euros de cadeaux fiscaux aux plus riches dans ce pays sans que ça ne pose de problème. Et on n'est pas capable de mettre moins de 3 milliards d'euros pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles et pour protéger nos enfants. Voilà ce qu'on fait. On commence par ça. Et ça, ça nécessite des enquêteurs supplémentaires. Ça nécessite des formations. Vous savez que quand un enfant vient parler, il faut qu'en face, il y a un enquêteur qui soit formé.
Qui soit formé, qui soit capable de distinguer, de lui poser des questions spécialement.
Je revoyais, regardez, je prends, j'avais un chiffre, je le retrouve plus, mais qui dit disait que aujourd'hui vous avez pas suffisamment d'enquêteurs qui sont formés pour entendre
spécialement
la parole
pour la question du recueillement des enfants.
Eh ben oui, et donc et tout le monde peut le comprendre parce qu'un enfant le faire parler c'est difficile. Et donc bien souvent il y a ce sentiment, il doit raconter des bêtises, il doit dire n'importe quoi. Donc voilà ce qu'il faut faire. Il faut mettre ça sur la pile des priorités des politiques publiques.
Est-ce qu'il faut un parquet spécialisé à l'image du parquet national financier, à l'image du parquet désormais contre le narcotrafic? C'est Dominique de Villepin qui propose cela.
Dans le programme qu'on avait défendu déjà en 2022 là pour l'élection présidentielle qui vient, vous savez, on est en train de travailler sur nos propositions,
déjà bien avancé.
Mais dans le programme de 2022, on mettait en place l'idée qu'il y ait en tout cas des équipes spécialisées qui prennent en charge et qui soient formées sur la question des violences sexistes et sexuelles et sur la question des violences sexuelles contre les enfants. Je trouve qu'effectivement ça irait dans la
bonne direction. Est-ce que vous irez ou est-ce que vous appelez à aller aux différents rassemblements ce soir, en particulier à Paris devant le ministère de la Justice,
je
mais devant tous les tribunaux de France?
Les insoumis ils seront présents parce que évidemment, on partage cette peine et cette émotion. Après, on sera vigilant, si vous voulez, sur les messages pour participer à des rassemblements avec lesquels on partage les messages.
Hier après-midi précisément, après-midi. Grand meeting en plein air à Saint-Denis. Vous avez annoncé avoir réussi à rassembler 26 000 personnes. Alors le chiffre, personne n'avait vraiment compté, mais en tout cas, il y avait beaucoup
compté.
De monde. Vous avez compté les 26 000 un par un?
Pas un par un, mais vous savez, non, mais juste pour que les choses soient dites
rapidement. Pour qu'on comprenne comment vous arrivez à
En fait, il y a un travail sur plan qui permet d'identifier une superficie. Et sur cette superficie, il y a une densité qui est estimée. Là, il y avait à peu près entre 7000 et 8000 mètres carrés. Si vous faites 3 à 4 personnes par mètre carré, vous arrivez à ce chiffre. Voilà, pour que les choses soient claires.
Grand meeting, grand rassemblement. En effet, coup d'envoi donc de la campagne LFI avec un certain nombre de points sur lesquels on vous a toujours entendu. La retraite à 60 ans, vous maintenez. Le SMIC à 1700 euros. Un peu plus surprenant, peut-être l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, l'autonomie davantage pour la Corse. Comment vous en êtes venu à ça?
D'abord en partant des demandes qui sont exprimées. En Corse, vous avez depuis plusieurs élections les élections qui sont remportées par les autonomistes. Et à un moment, quand vous êtes démocrate, vous entendez la parole de la
mais
population.
Mais cet argument pour la Corse, il ne vaut pas pour la Nouvelle-Calédonie, puisque pour la Nouvelle-Calédonie, ils ont voté à 4 reprises.
Non, mais la Nouvelle-Calédonie, Jean-Luc Mélenchon a dit, nous accompagnerons la Nouvelle-Calédonie vers l'indépendance. C'est ce qui est fait en France depuis les années 80. Les accords de Nouméa, puis les accords de Matignon.
Non, mais ça veut dire que vous souhaitez l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie.
Un processus de décolonisation tel qu'il a été engagé, son aboutissement, c'est la fin des soumissions et donc un processus d'indépendance.
Mais me semble-t-il, votre argument sur la Corse, qui est un argument électoral,
et sur la Corse et sur la Nouvelle-Calédonie,
pourrait donner exactement l'inverse du côté de la Nouvelle-Calédonie, puisqu'il y a eu des votes et que les votes n'ont pas conclu à la volonté d'une...
C'est un peu plus compliqué que ça, si je peux me permettre.
En effet, c'est plus compliqué, on est d'accord.
Il y a eu deux référendums.
En tout cas, il n'y a pas eu de référendum.
À chaque fois, l'indépendance a progressé. Et le troisième référendum, qui peut-être aurait pu peut-être conduire, a finalement été boycotté par les indépendantistes puisqu'il a été organisé
par M. Édouard Philippe
contre la volonté des indépendantistes dans la période du Covid.
C'est pas une forme d'abandon?
Non, c'est une forme de reconnaissance d'un processus de décolonisation qui est engagé en Nouvelle-Calédonie et qui est reconnu, y compris par les Nations Unies, et que son aboutissement, c'est celui-là. Et quand vous avez cette attente, cette volonté qui s'exprime, eh ben, je crois que vous devez la prendre en compte. La République, ça ne peut pas être une camisole de force. Vous ne pouvez pas imposer à des populations qui demandent une indépendance ou, dans d'autres territoires, une autonomie, de ne pas y avoir droit. Et donc, il vaut mieux le réfléchir en intelligence et en discussion plutôt que le faire malheureusement par des situations
Votre adversaire, c'est le RN. Nous ferons rempart au RN. Voilà ce qu'a redit Jean-Luc Mélenchon hier. Dans la foule, on a entendu ça. On est chez nous, crié par la foule face à vous. J'ai quand même dû le réécouter plusieurs fois parce que c'est un cri que l'on entend habituellement dans les meetings du Front National ou aujourd'hui du Rassemblement National. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, vous voulez être le miroir du RN?
Non, pas du tout. Ça veut dire qu'il y a eu une tentative depuis des dizaines d'années par l'extrême droite de capter un certain nombre de symboles, un certain nombre d'idées, un certain nombre de slogans, et que vous disiez, Jean-Luc Mélenchon a dit, on est le rempart contre le Rassemblement National. Sa candidature, c'est pas seulement une candidature d'opposition au Rassemblement National, c'est d'abord une candidature qui propose un programme alternatif. Mais oui, il y a aussi dans cette campagne des élections présidentielles la nécessité de combattre, de battre le Rassemblement National. Et une des manières de le faire, c'est de lui reprendre aussi les symboles qu'il a essayé de nous confisquer. Quand le Rassemblement National dit « on est chez nous », c'est pour exclure une partie de la population et pour considérer que cette partie de la population n'est pas chez elle. Quand le peuple d'hiver qui était rassemblé hier à Saint-Denis dit « on est chez nous », c'est pour dire « non, on est tous chez nous ». Et y compris ceux que les autres considèrent qu'ils ne sont pas chez eux. Voilà, la réponse, c'est celle-là. C'est une réponse qui
est politique,
pas du tout un miroir.
Il y avait d'ailleurs beaucoup de drapeaux français.
Oui,
il y a de drapeaux tricolores, quelques drapeaux palestiniens, mais les drapeaux tricolores en masse, c'est nouveau, ils ont été distribués par LFI, ces drapeaux
Comme d'habitude, dans nos meetings, on a toujours, d'ailleurs, contrairement à ce que disent souvent l'extrême droite pour parler de la France insoumise, en disant, il n'y a pas de drapeau bleu-blanc aussi, il y a toujours des drapeaux bleu-blanc.
Non, il y en avait
bleu,
beaucoup hier.
Ben oui, il y en a, et évidemment, il y en a, parce que...
Mais ça veut dire quand vous dites, voilà, on veut se réapproprier, je recevais la semaine dernière Raphaël Glucksmann ici même, qui disait là, à peu près, en réalité, la même chose. Alors, vous serez évidemment sûrement pas d'accord sur sur la suite de ce qu'ils en fait. Mais lui, il dit, il faut qu'on fasse en sorte de ne pas laisser ces symboles à l'extrême droite. Il parle de la Marseillaise, il parle du drapeau tricolore. Raphaël Glucksmann qui dit, moi, je plierai la France insoumise.
Alors, il a raison. Il faut faire une chose très simple. Vous prenez le bulletin de vote Jean-Luc Mélenchon, vous le pliez avant de le mettre dans l'urne. Ça, il a raison. C'est ça qu'il faut faire.
C'est comme ça que vous l'entendez.
Bah oui. Ouais. Il faut plier le bulletin avant de le mettre dans l'enveloppe. Sinon, ouais, il rentre pas.
Vous êtes surpris?
De?
Bah, qui dit ça?
Non, il fait ce qu'il veut. Écoutez, il y a une élection présidentielle qui
Mais vous
arrive.
Avez dit la primaire, c'est fini. Hier, Jean-Luc Mélenchon a dit, ça y est, la primaire est finie, c'est
primaire,
nous. Comme s'il y avait déjà eu une primaire de la gauche.
Elle n'a jamais trop commencé, ça vous a pas échappé, madame de Malherbe. Écoutez, ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon hier, c'est, dans cette grande bataille qui vient et qui est une bataille décisive, il y a, une force politique, une candidature, une campagne qui est carrée, qui est engagée avec une équipe, avec un programme qui est en cours de discussion et avec une démonstration de force populaire qu'on a vu hier. Et donc, ceux qui veulent une alternative au macronisme et ceux qui veulent battre l'extrême droite, ceux qui veulent réouvrir une nouvelle page de l'histoire des France, qui veulent partager les richesses, qui veulent faire la planification écologique, qui veulent passer à la 6e République, qui veulent redonner à la France une voix sur la scène internationale. Eh ben, ils ont une équipe, ils ont une candidature, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon. Alors, je leur dis, venez. Venez participer.
Fabien Roussel hier, qui dit, pour nous, ce ne serait ni l'un ni l'autre, en parlant de Jean-Luc Mélenchon ou de Raphaël Glucksmann.
Bah, Fabien Roussel dit ce qu'il veut, mais je crois que à la fin, c'est pour conduire à des candidatures qui n'ont finalement pour seul résultat d'empêcher la candidature de Jean-Luc Mélenchon d'être qualifié au second tour et de l'emporter, je ne crois pas qu'on aura beaucoup fait avancer la gauche. Et c'est ce qui s'est passé en 2022. Et moi, vous savez, j'ai croisé beaucoup de militants communistes qui s'en sont mordus les doigts en 2022, d'avoir maintenu jusqu'au bout une candidature qui a fait autour de 2% des voix, et ces 2% des voix, c'est ceux qui ont manqué à Jean-Luc Mélenchon pour se qualifier au second tour. Donc chacun prendra ses décisions, mais ce que je dis, c'est que tout le monde a une responsabilité devant l'histoire. Personne ne pourra dire je n'étais pas au courant. Tout le monde a une responsabilité devant l'histoire. Et moi, je veux juste dire ça. Je veux dire, la proposition qu'on fait, c'est une proposition qui est ouverte. toutes celles et ceux qui veulent participer de cette dynamique sont les bienvenus. Tout le monde sera respecté. Il y a une discussion sur le programme. Il y a la volonté de faire un accord présidentiel législatif. Ceux qui le refusent, après, ils assumeront leurs propres responsabilités.
Manuel Bompard, coordinateur national de la France Insoumise. Merci d'avoir répondu
merci
à mes questions. 8h48 sur RMC BFM TV.
Merci Apolline. Et dans un instant sur RMC, les dernières infos sur la Coupe du Monde. Camp de base, dernier match des Bleus en France ce soir. Et les pronos, tiens, parier sur les résultats entre amis ou au boulot. Vous êtes de plus en plus à vous prendre au jeu. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
La Coupe du Monde de foot débute cette semaine, mais ça a déjà commencé sur RMC.
RMC, Coupe du Monde de football, FIFA 2026.
Il est 8h52. Bonjour Virginie Fulpin.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Pardon monsieur, c'est dans 3 jours, J-3, la Coupe du Monde. Et dans un instant, vous allez nous donner les dernières infos sur les équipes qui sont en train de prendre possession de leur camp de base. Mais avant cela, on va vous retrouver vous, Célestin Bougère. Bonjour Célestin.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors on le sait, les paris sportifs vont battre de nouveaux records. Mais ce matin sur RMC, on s'intéresse au concours de pronos gratuits. En famille, entre collègues, entre amis, le phénomène explose. Les applications sont de plus en plus nombreuses. D'ailleurs Célestin, dans de nombreuses entreprises, on s'y met.
Et oui, par exemple, je suis rendu à Viry-Châtillon dans l'Essonne, au siège de la branche énergie et services de l'entreprise de BTP Fayat. 1000 salariés sont attendus sur l'application Corporico qui permet d'enregistrer son pronostic pour tous les matchs de la Coupe du Monde. Pas d'argent en jeu, le principe, plus le pari est risqué, plus vous gagnez de points si vous avez raison à la fin du match. Je rejoins deux voisins de bureau, Paul Aubin, responsable achat, et Pauline Kramer qui s'occupe de la base fournisseur de l'entreprise. Des maillots sont accrochés au mur, il y a des drapeaux bleu, blanc, rouge un peu partout, on sent que la compétition se rapproche.
On l'a déjà fait il y a 2 ans pour l'Euro, d'ailleurs j'avais gagné. C'est marrant, c'est bonne ambiance, c'est fun, c'est cool, franchement je suis à fond. Donc j'ai trop hâte que ça commence. T'as commencé toi ?
Bien sûr.
Déjà on peut voir votre pari final pour le vainqueur.
La France évidemment, on est chauvin. Sur les têtes de série aussi pour les différents groupes.
T'as mis Mexique, ouais. Non, moi je dirais plus l'Afrique du Sud.
Ouais,
l'Afrique
bien sûr.
Bah, on sait jamais. Hein.
Non, mais
bah,
c'est la belle surprise.
Bah, on verra bien. Hein.
Quand moi je joue safe, elle est plutôt audacieuse. Voilà, elle prend les 130 points direct sur
franchement, j'avais même pas vu les points. C'est les couleurs qui me parlent.
Voilà, donc là on joue vraiment sur les fondamentaux, les drapeaux. C'est ça qui oriente le pari.
Vous pensez que vous avez une chance de gagner quand même ou ça va être compliqué?
On sait pas. Hein. Il a de la chance, lui. Hein.
C'est pas que de la chance. Je vais pas vous mentir, monsieur, on joue pour gagner. Hein.
C'est pas que de la chance. Et qu'est-ce qu'on gagne, Célestin?
Eh ben, on gagne un air fryer, un barbecue électrique ou encore des écouteurs.
Bah oui.
Et oui,
pourquoi pas.
L'application Corporico va être utilisée par près de 400 entreprises pour la Coupe du Monde. Un record selon David Belaïch, le cofondateur de la société qui édite ce site.
On a autant d'experts en foot que de novices. Autant d'hommes que de femmes, autant de jeunes que de personnes plus âgées. On a complètement modernisé soit le papier, soit même le tableau Excel ou le tableau Velleda. On garantit qu'il n'y ait pas de triche déjà. Ça évite les conflits en interne.
Alstom, Stellantis, Saint-Maclou, les comités d'entreprise de ces sociétés ont déjà invité leurs salariés à faire leurs pronostics.
Alors attention, il n'y a pas que dans les entreprises qu'on parie.
Et non, tout le monde se lance avec des applications comme Scorecast ou Mon Petit Prono. Une salle de sport fait gagner 1 an d'abonnement aux meilleurs parieurs. Un réparateur de téléphone, des cartes cadeaux, des restaurants, des bars se prêtent au jeu, et même un EHPAD à Saint-Martin-des-Champs dans le Finistère. Nathalie Vignard, l'animatrice, récolte les pronostics des résidents à chaque compétition internationale depuis 2012.
C'est un moment très convivial. Cet engouement, je peux même pas l'exprimer. C'est tellement beau à voir. Ils sont tellement heureux de faire ça. Bon, il y a aucun mystère. Tout le monde a mis la France qui gagne. Donc, c'est des chauvins.
Et à la fin, le vainqueur a le droit à une coupe avec son nom inscrit dessus. Le trophée est remis en jeu tous les 2 ans à chaque compétition.
Alors certains se lancent même en famille et entre amis.
Oui, et là, c'est plus la même histoire. C'est son honneur qui est en jeu. Je suis allé voir Vincent, un avocat, et son frère Louis à l'étranger en ce moment. Ils se sont appelés pour débattre et ils sont pas du tout d'accord, ça c'est clair. Rendez-vous jeudi pour cette famille, puisque le père a pronostiqué un beau parcours du Mexique, qui joue le match d'ouverture contre l'Afrique du Sud. C'est un peu risqué le Mexique.
Plus que 3 jours et puis il faudra parier match par match. Vous avez fait vos pronos, Célestin, déjà?
Oui, j'ai fait mon chrono.
Vous pariez sur qui à la fin?
Moi, j'ai parié sur le Portugal. Vainqueur.
On s'arrête là alors. Il est 8h55.
RMC. Le mondial de Virginie.
Virginie Fulpin, vous êtes toujours avec nous. La Coupe du Monde de foot commence dans 3 jours aux États-Unis. Vous sentez l'excitation un petit peu là? Aux États-Unis, au Mexique, au Canada. Et là, ça y est, les premières équipes sont arrivées ou en partance pour le grand voyage.
Voyage, voyage.
Voyage dans le temps aussi, hein, vous voyez, avec des Irlandais. Alors pour l'équipe de France, il y a quand même encore un match de préparation ce soir contre l'Irlande du Nord. Après, on boucle les valises, on part pour la côte Est des États-Unis. C'est le dernier voyage de Didier Deschamps en tant que sélectionneur. Hier, il a dit au revoir à Clairefontaine et le personnel du château lui a fait une aide d'honneur. Il faut dire qu'il y a passé 25 ans dans ce lieu, hein, 11 comme joueur, 14 comme sélectionneur, avec une Coupe du Monde dans chaque rôle quand même.
Une grosse inquiétude au Danemark, Virginie.
Ouais, une grosse inquiétude parce que l'international danois Christian Eriksen s'est effondré sur la pelouse en plein match de préparation hier entre le Danemark et l'Ukraine. Le joueur de 34 ans avait déjà été victime d'un malaise cardiaque très impressionnant lors de l'Euro 2021. Depuis, il porte un défibrillateur implantable. La fédération danoise se veut rassurante. Christian Eriksen s'est vite relevé. Il était conscient au moment où il est monté dans l'ambulance, mais évidemment là, il n'est plus du tout question de Coupe du Monde pour lui.
L'équipe d'Iran est arrivée au Mexique où se trouve son camp de base et sa Coupe du Monde promet d'être compliquée.
Comment pourrait-il en être autrement, hein, alors que la guerre au Moyen-Orient se poursuit? Aucun problème pour l'arrivée de la délégation iranienne au Mexique. Les États-Unis ont fourni des visas à l'ensemble des joueurs, mais ils en refusent une quinzaine pour des membres du staff. L'Iran parle de discrimination. Les Américains devraient bien autoriser les Iraniens à entrer sur leur territoire à la veille de chaque match, parce qu'au début, on avait dit qu'il fallait peut-être tout faire en 24 heures.
Hein. Ah oui.
Partir le matin, aller jouer et repartir aussitôt jusqu'au Mexique, ce qui n'était pas très entendable par la FIFA.
Alors heureusement, il y a aussi des infos un peu plus légère autour de cette Coupe du Monde, comme les Norvégiens qui arrivent en bateau.
Bon alors, on va pas mentir, hein, en vrai ils prennent l'avion comme les autres, mais sur leur photo officielle, cette équipe norvégienne, les joueurs posent tous en tenue de viking, Erling Haaland au premier plan avec un drakkar traditionnel en arrière-plan.
Mais moi ça m'a fait peur, ça marche.
Ça marche parce que la France est dans le groupe de la Norvège. 26 juin pour la date, ce sera près de Boston. Bon bah j'espère qu'il y aura la même ambiance qu'au Mexique, parce que samedi il y a des milliers de Mexicains qui se sont réunis pour faire onduler la plus grande Ola, jamais vu. Plus de 2 km de long, c'est bon. Le record du monde est battu.
Je sais pas si j'ai plus peur des Norvégiens en drakkar ou des Mexicains et de leur Ola. Merci Virginie, le mondial de Virginie. C'est tous les jours à 8h50, la Coupe du Monde à suivre en intégralité sur RMC Radio Officielle. Vous ne manquerez rien, rien de l'événement grâce à nos reporters sur le terrain et au studio RMC délocalisé installé à New York aux abords du stade où aura lieu la finale le 19 juillet prochain. Dans un instant, les GG. Quel est le programme, mon cher Alain Marchal? Bonjour Alain.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Barbara Lefebvre, Bruno Poncet, Charles Consigny. Déjà, c'est le trio de grande gueule. Nous reviendrons sur la convocation des procureurs par le garde des Sceaux, Gérald Darmanin. Il demande à ce qu'on reprenne toutes les plaintes à zéro. 70 000, est-ce que vous y croyez? On recevra Bruno Le Maire, l'ancien ministre de l'économie. Est-ce que c'est l'homme qui a ruiné la France? Restez avec les GG, avec les grandes gueules.